Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode qui m'a été beaucoup demandé, c'est faire le retour d'expérience de l'écriture de mon livre. Alors, du coup, petit préambule, si tu n'as pas suivi, le livre Bien dans ta boîte est sorti le 1er février 2024. Je te mets les liens dans la description si tu veux te le procurer, ou tu peux également bien sûr aller le commander dans ta librairie préférée. Ce livre s'appelle Transforme ta vie d'entrepreneur et il a vraiment vocation à balayer les thématiques de bien-être au travail des entrepreneurs. Donc tu verras, dans ce livre on parle de beaucoup de choses et de tous les sujets qui reviennent très régulièrement. En fait, ce livre c'est un compte-rendu, si je pourrais dire ça comme ça, la synthèse de mes 5 ans de consultation et de pratique en coaching auprès des entrepreneurs, avec tout plein de sujets qui reviennent tout le temps, comme la procrastination, le syndrome de l'imposteur, l'argent, etc. Et puis des sujets également entre guillemets sous-jacents, on va beaucoup parler des émotions, on va beaucoup parler du mental, enfin voilà, je l'ai construit en 5 parties: la vitalité, le mental, les émotions, le temps, la maîtrise de son temps, et la 5e partie c'est la question du sens, où on parle des valeurs, voilà, de mettre du sens dans son entrepreneuriat, du rapport à l'argent, de la relation à l'argent, etc., etc. Donc le but de cet épisode c'est de vous partager un petit peu mon retour d'expérience. Et j'ai également demandé sur Instagram quelles étaient vos questions, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui sont potentiellement tentés par l'écriture du livre. Il y en a peut-être d'ailleurs qui sont même en train déjà d'y travailler. Et puis il y en a plein qui voudraient concrétiser ça un jour. Donc j'espère que cet épisode pourra te servir à voir un peu les coulisses. J'ai récupéré toutes les questions sur Instagram. Je vais bien sûr répondre à tout. Avant ça, je vais faire une première partie un peu partage d'expérience, et puis deuxième partie, répondre aux questions. Et puis voilà, j'espère que du coup cet épisode pourra t'aider à y voir un petit peu plus clair, et puis peut-être te motiver à te lancer concrètement dans cette aventure-là. Donc en gros, déjà, premier point de comment ça s'est déroulé, ça va déjà répondre à certaines des questions qui m'ont été posées sur Instagram. Moi, j'ai commencé par contacter les maisons d'édition, enfin la maison en l'occurrence d'édition, puisque mon livre est édité par la maison Vibert. Donc j'ai commencé par prendre contact avec la maison d'édition, et après l'écriture. Ça fait partie des questions qui sont revenues de à quel moment t'envoies le livre, etc. Alors moi j'ai pas procédé comme ça. Je te conseille qu'à moitié, pour pas dire que je te le conseille pas en fait, de procéder comme ça, c'est-à-dire d'écrire ton livre puis de l'envoyer, parce qu'en fait, en tout cas si tu veux l'auto-éditer, évidemment c'est autre chose. Mais si tu veux passer par une maison d'édition, en fait la maison d'édition, c'est beaucoup plus complexe pour eux de récupérer un manuscrit terminé. Je parle de non-fiction, je précise, je souligne, j'encadre. Moi, j'ai écrit de la non-fiction, donc je suis pas du tout en train de vous parler de ce qu'il faut faire pour des romans ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je te mets dans la description le lien vers un épisode que j'avais fait avec Camille, qui, elle, pour le coup, était venue nous renseigner sur la question de l'écriture de la fiction. Moi, ici, j'ai oublié de faire ce petit préambule nécessaire en début d'épisode. Je vais parler que de ce que je connais, c'est-à-dire de la non-fiction. Donc, du coup, ça me paraîtrait pas l'idée du siècle de d'écrire tout ton livre, parce que c'est quand même un travail colossal, et après de l'envoyer à une maison d'édition, parce que la maison d'édition, peut-être que le plan va pas leur convenir, peut-être que ça va pas rentrer dans les collections, peut-être que ça rentre pas dans le calendrier éditorial, enfin bon. Donc moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire j'ai d'abord travaillé sur un plan et sur une introduction. Une introduction qui faisait 2-3 pages Word, tu vois, quelque chose comme ça. Pour avoir quand même une ébauche à donner, que j'ai donc transmis à la maison d'édition, ça les a intéressés, on a eu des rendez-vous avec l'éditrice, etc., pour que ensuite je puisse remplir un dossier beaucoup plus conséquent que la maison d'édition m'a envoyé, où là vraiment il y avait dizaines de pages à remplir, pour que vraiment après elle ait un dossier solide pour aller le présenter au comité éditorial. Et le comité éditorial qui se réunit, en tout cas chez Vibert, tous les mois, après c'est eux qui décident des ouvrages qu'ils vont publier ou non, est-ce que ça rentre dans les collections, est-ce que ça les intéresse, est-ce qu'ils n'ont pas déjà des ouvrages similaires dans la collection, en quel cas c'est peut-être pas nécessaire de republier quelque chose qui ferait un peu doublon. Donc voilà, l'idée, je pense que c'est vraiment plutôt de travailler sur un projet qui est quand même solide, travailler un plan, travailler une introduction, travailler un pitch autour de ça. Si tu vises une maison d'édition en particulier, je pense que ça vaut vraiment le coup, du coup, d'aller voir ce qu'ils ont déjà publié sur cette thématique-là, parce qu'en fait, ils ont déjà fait 3, 4, 5 ouvrages. En fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour eux à republier quelque chose, sauf si t'es une super resta sur les réseaux sociaux, mais sinon, ça risque de pas vraiment les intéresser. De prendre contact avec eux, et ensuite, une fois que le comité éditorial dit « Ok, très bien, nous, le bouquin, il nous intéresse, on valide », ensuite, il y aura des rendez-vous avec la maison d'édition pour recalibrer le plan, pour peut-être changer un petit peu d'axe, etc. Voilà, ils vont aussi te faire des propositions, ils vont aussi te dire, bah eux ils connaissent aussi le marché, donc te dire bah ça généralement ça marche pas très bien. On a souvent des retours des lecteurs qu'ils aimeraient avoir telle thématique, etc. Enfin voilà, ça sera aussi co-construit. Donc moi voilà, ça s'est passé comme ça. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le plan, etc. J'ai écrit un premier chapitre assez rapidement, que j'ai envoyé dans la semaine ou les 10 jours, je ne sais plus, pour que déjà mon éditrice puisse recalibrer, si je puis dire ça comme ça, tout de suite, en me disant ok, ça on garde, ça on garde pas, il faut plus long, il faut plus court, blablabla. Je vais donner un exemple très concret. Moi rapidement on s'est rendu compte que dans mes introductions de chapitres j'avais tendance à être un peu longue, des formations universitaires de faire des introductions qui font des pages et des pages. Alors là, évidemment, je n'avais pas fait 6 pages d'introduction par chapitre, mais voilà, exemple tout bête et très concret, mon éditrice m'a dit, bah les introductions, il faut les réduire un petit peu, parce que quand les lecteurs, ils feuillettent à la FNAC ou que sais-je, en fait, s'ils ne voient pas les titres, s'ils ne voient pas un peu la structure du bouquin, parce qu'il n'y a que des introductions partout, ça ne donne pas très très envie. Donc, ça, c'est évidemment l'avantage d'avoir des éditeurs avec soi, parce que, bah, évidemment, hein, c'est leur métier, ils connaissent mieux que moi, moi, ce n'était pas mon métier. Enfin, ça l'est toujours pas d'ailleurs, se dit en passant. Donc voilà, au début, j'ai envoyé chapitre par chapitre pour qu'on ait des retours, pour bien recalibrer. Et puis une fois que j'avais bien compris la trame qu'on attendait de moi et que j'avais un peu chopé le truc, si je peux dire ça comme ça, après j'écrivais toute une partie et j'envoyais toute la partie d'un coup à mon éditrice. Donc en fait, quand je dis une partie, donc moi dans mon livre, dans mon plan, il y a 5 parties, comme je te disais, la vitalité, le mental, les émotions, le temps et le sens. Et dans chaque partie, il y avait évidemment plusieurs chapitres. Donc au début, j'ai envoyé chapitre par chapitre pendant, j'en sais pas, un mois par exemple, quelque chose comme ça, histoire de prendre en main la méthode, si je peux dire ça comme ça. Et après, une fois que j'étais un peu plus assise, j'écrivais 4-5 chapitres, c'est-à-dire toute une partie, et j'envoyais toute la partie pour correction. Alors, moi, dans ma manière de travailler, j'ai envoyé d'abord à ma mère pour correction des fautes d'orthographe, et après j'ai envoyé à mon éditrice. Mais je reviendrai sur ce détail-là de comment j'ai procédé après. Pour te terminer le planning, moi j'avais 5 mois pour écrire mon livre, c'était assez rush quand même, donc il a fallu carburer, mais là aussi il y a des questions qui sont venues sur ça après, donc j'y répondrai dans la partie questions. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. En gros, j'ai compté 3 mois, on va dire à peu près, de contact de la maison d'édition, rendez-vous avec les éditrices, remplir le dossier, passer le comité éditorial, valider le plan, blablabla. Après 5 mois de tunnel d'écriture. Après, on a eu grosso modo 4 mois, peut-être même plutôt, d'aller-retour, de correction, relecture, réécriture, etc. La phase d'impression et après la phase de communication. Et là, au moment où je te fais cet épisode, on est rentré dans la phase de communication / promotion. Concernant du coup, deuxième truc que je voulais aborder, la méthode entre guillemets d'écriture. Donc, comme je te disais, je me suis un petit peu devancé moi-même il y a 5 minutes, mais j'ai donc fait 5 parties avec plusieurs chapitres. J'ai d'abord écrit un premier chapitre, comme je te disais, pour que l'éditrice puisse réguler si besoin. Ensuite, j'ai écrit partie par partie. Donc moi, ce que je faisais, c'est que d'abord, je faisais le travail de recherche, je synthétisais, je prenais des notes, j'écrivais mon chapitre, je le laissais reposer. Le lendemain, je revenais le relire à tête reposée, déjà pour trouver éventuellement des fautes d'orthographe qui ont pu passer à la trappe, pour trouver des erreurs d'inattention. Enfin, c'est-à-dire que des fois, j'écrivais, je sais pas, moi, par exemple, le podcast bien dans ta boîte, ben, j'écrivais le podcast bien dans ta boîte, parce qu'au bout d'un moment, t'es tellement dans ton chapitre et fatigué que des fois, c'est même pas des fautes d'orthographe, c'est genre juste, tu t'écris des trucs qui ont ni queue ni tête, quoi. Ça n'a pas de sens. Il y a un point au milieu de la phrase ou que sais-je. Bon, bref, je le relisais à froid. Une fois que moi j'étais bien repassé dessus, je l'envoyais à ma maman pour qu'elle refasse une relecture de fautes d'orthographe éventuelles qui aurait pu me passer à la trappe. J'ai la chance d'en faire très peu, mais bon, t'en as toujours forcément qui te passent à la trappe, ou des erreurs d'inattention, etc. Ou des phrases pas claires, en fait, tout simplement. Des fois, ma mère me disait, ok, c'est tout bon, pas de faute. Par contre, page 2, ligne 41, rien compris à ta phrase, quoi. Et après, j'envoyais du coup à mon éditrice, qui des fois faisait des réaiguillages tout de suite en disant alors attention Laura, le chapitre 6, il y a une redite du chapitre 2, bon voilà, ce genre de réaiguillage là. Et j'ai envoyé partie par partie. Ça c'est pour on va dire le gros de la structure. Après, ce que j'avais fait, c'est que du coup je prenais des, j'avais différents, comment je pourrais dire, créneaux de temps bloqués. Il y avait des créneaux d'écriture, évidemment, hein, ça me paraît évident, mais il ne faut pas prévoir que des créneaux d'écriture pour écrire son bouquin. Il faut, en tout cas pour le bouquin que moi j'ai écrit, il fallait aussi qu'il y ait du travail de recherche. Donc j'avais aussi des créneaux de recherche. Alors les créneaux de recherche concrètement, c'est écouter des podcasts, écouter des conférences, prendre des notes, écrire toutes les idées qui me passent en tête. C'est lire évidemment des bouquins, directement de la thématique ou des bouquins connexes pour alimenter la réflexion. J'ai lu une quantité astronomique d'articles de recherche pour avoir des chiffres à jour, pour avoir des études de recherche à jour, etc. Et donc en fait, je bookais dans mon agenda les temps de recherche, les temps d'écriture, les temps de correction, envoi, blablabla, etc. Moi, personnellement, tout ce qui est travail de recherche, je l'ai beaucoup fait en terrasse des cafés, parce que, je sais pas, ça me mettait dans une bonne dynamique, j'aimais bien. Alors après, il est vrai que le gros de l'écriture du livre, je l'ai fait en mai, juin, juillet, donc la météo était plus favorable que là en janvier, mais enfin bref, j'aimais bien cette ambiance-là pour me mettre en terrasse et vraiment m'immerger avec les podcasts, les conférences, les bouquins, les articles, etc. Je prenais beaucoup, beaucoup de notes. D'une manière générale, je pourrais te conseiller d'avoir toujours de quoi noter, je sais pas moi, ton carnet, ton téléphone, que sais-je, parce qu'il y a plein de moments où t'es en train de prendre ta douche, de faire à bouffer, et tu dis « Ah, mon Dieu, putain, comment j'ai pu ne pas penser à mettre ça dans ce chapitre, il faut que je mette ça. Ah, tiens, mais ça me fait penser, en fait, ce que j'ai lu là tout à l'heure, mais en fait, je pourrais grave le mettre en lien avec le podcast de la dernière fois. » Bon, bref, voilà. Et tout ce qui était travail d'écriture, j'en ai fait 99% à la maison. J'ai très rarement écrit à l'extérieur. Là, j'avais besoin d'être... Alors ça, c'est très personnel, hein. Je partage mon expérience, mais c'est vraiment très personnel. Mais voilà, moi, j'avais besoin d'être à la maison et de dérouler mon truc. J'avais créé un suivi sur Notion. Alors, tout simplement, Notion ou un autre outil, on s'en fiche. Mais en tout cas, j'avais quand même 18 chapitres en tout, 5 parties, 18 chapitres. Donc, j'avais tout listé. Et en fait, comme ça, je notais où est-ce que j'en étais des différents chapitres. Parce que personnellement, je n'ai pas attaqué par le chapitre 1. J'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé par écrire le chapitre qui me paraissait le plus facile pour moi à écrire, histoire de me mettre un peu en jambe et voilà, et de prendre entre guillemets un petit peu confiance, etc. Donc j'ai pas fait chapitre 1, puis 2, puis 3, etc. Et donc du coup, afin de pas me perdre, j'avais rentré sur Notion les titres des 18 chapitres. Et comme ça, je notais est-ce qu'ils sont en cours de recherche, est-ce qu'ils sont en ébauche d'écriture, est-ce qu'ils sont écrits, est-ce qu'ils sont corrigés, est-ce qu'ils ont été corrigés par maman, est-ce qu'ils ont été envoyés à l'éditrice, est-ce que j'ai eu un retour de l'éditrice, etc., etc. Et comme ça, je me perdais pas. Ça, je te conseille vraiment d'avoir un espèce de dashboard, Notion, ClickUp, Excel, on s'en fout de l'outil, mais parce que voilà, si t'as beaucoup de chapitres, tu peux vite rapidement t'y perdre, et surtout, faut garder en tête qu'il n'y a pas que ça. Moi, par exemple, j'ai 4 entrepreneurs et entrepreneuses qui témoignent dans le livre, donc il fallait aussi suivre à quel endroit je vais les mettre, est-ce que je les ai choisis, est-ce que je les ai contactés, est-ce que j'ai envoyé un premier mail, est-ce qu'ils m'ont répondu, est-ce qu'il faut relancer, est-ce que j'ai corrigé ce qu'ils m'ont envoyé, enfin bon, bref. Donc il y a quand même beaucoup de choses à suivre, donc... Pourtant, moi, je suis pas du tout une espèce de d'obsédée des ClickUp, des Notion et machin. Mais alors là, vraiment, je trouvais que ça valait le coup. Voilà. Et puis après, beaucoup de relectures à froid. J'ai fait... Mais ça, c'est parce que je suis un peu barjo. Mais c'est pas grave, on assume. J'ai fait beaucoup de relectures à voix haute. Je l'ai beaucoup lu à voix haute, ce bouquin. Pas tous les chapitres, mais il y a pas mal de chapitres que j'ai lu à voix haute pour deux choses. La première, c'était pour m'assurer que ça soit pas trop... il y a sûrement des endroits où ça l'est d'ailleurs, mais que ça soit pas trop trop dense, trop trop lourd, parce que moi, j'ai vite tendance à jargonner. Et donc, du coup, le fait de le lire à voix haute, je trouve que ça permet de voir s'il y a une fluidité quand même de lecture. Et du coup, bah, le deuxième point, c'était pour ça. Je l'ai beaucoup relu à voix haute pour certaines phrases, pour qu'elles sonnent plus jolies, plus fluides. Voilà, bon, même après, je suis un peu barjo, mais enfin bon, bref, c'est comme ça, il faut assumer, hein. Voilà, donc là, je pense que t'as quand même une bonne idée de comment ça s'est passé. Je réfléchis un petit peu à voix haute si je peux te dire des trucs supplémentaires, mais bon, je pense qu'on va aborder quand même plein de choses dans la partie... questions. Donc je vais rentrer dans la deuxième partie de cet épisode et donc j'ai repris toutes les questions qui m'ont été posées sur la petite boîte à questions en story Instagram. La première question que j'ai récupérée, c'est comment ne pas s'éparpiller dans tous les sens dans l'écriture. Alors déjà, un premier truc dont je t'ai parlé dans la première partie de cet épisode, c'est d'avoir un plan et d'avoir un suivi. Déjà, voilà. Ensuite, pour ne pas s'éparpiller dans tous les sens, moi je trouve que ce qui va être intéressant, c'est toujours de garder en tête qu'est-ce que je veux apporter avec ce chapitre. What's the point? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que je veux apporter avec ce chapitre? Ça revient à cette idée que Charles Pépin, qui est un philosophe, disait dans une interview que j'ai écoutée il y a pas longtemps, où il disait « il faut écrire pour les lecteurs et pas écrire pour nous ». Parce que si on n'écrit pas pour les lecteurs, bah faudra pas s'étonner qu'ils apprécient pas le bouquin. En tout cas, même si on écrit pour eux, ils peuvent ne pas l'apprécier, mais alors si on n'écrit pas pour eux, alors là c'est sûr que ça va pas résonner, en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc je trouve que vraiment, pour ne pas s'éparpiller, il y a « qu'est-ce que je veux apporter avec ce chapitre, cette partie et ce bouquin, en fait. C'est une forme de d'entonnoir, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment l'idée de dire, en fait, je ne vais pas explorer toutes les thématiques avec mon livre. Un livre, ça reste, malgré tout, que, entre guillemets, 200, 300, 400 pages. En tout cas, généralement, dans nos secteurs, voilà, moi, il en fait un peu moins de 300, je crois, 260, je sais plus. Enfin, bref, on s'en fout. Ça paraît beaucoup à écrire. Bon, au demeurant, en 200, 300 pages, c'est pas une thèse, quoi, hein, donc dans tous les cas, et puis même quand t'écris une thèse de doctorat, quoi qu'il en soit, t'as pas balayé tout les sujets de la thématique. Donc là, évidemment, avec un bouquin, c'est évident que vous n'allez pas traiter tous les sujets. Sauf si vous avez un bouquin ultra, ultra précis sur quelque chose qui est vraiment très, très niche, très, très précis. En quel cas, j'imagine que ça doit être un avantage, justement, pour ne pas s'éparpiller et au moins d'un bouquin qui est très précis. Moi, je suis quand même sur un truc niché, on est quand même sur le bien-être au travail des entrepreneurs, on n'est pas sur une thématique non plus très très large, mais enfin, quand même, bien-être au travail des entrepreneurs, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, et ça a quand même été un des enjeux du plan et du livre, c'était quand même d'arriver à avoir une structure et d'avoir quelque chose qui était quand même cohérent pour qu'on n'ait pas non plus, enfin, pour que vous n'ayez pas non plus la sensation de passer d'un sujet à l'autre sans queue ni tête et sans lien. Donc ça, c'était pas si évident que ça. Donc vraiment, je trouve que pour ne pas s'éparpiller, faites un plan, ayez bien suivi de ce que vous faites, et demandez-vous toujours qu'est-ce que vous voulez apporter. What's the point? C'est quoi l'essentiel à donner? C'est quoi loi de Pareto? C'est quoi les 20% que les lecteurs doivent retenir qui feront 80% de leur lecture, si je pourrais dire ça comme ça, ou 80% de leur apprentissage, entre guillemets, si vous écrivez du coup de la non-fiction, j'imagine qu'il y a volonté de transmission, quelque chose comme ça. Et vraiment, gardez en tête que vous ne parlerez pas de tout avec votre bouquin. C'est sûr que si vous faites un bouquin et que dans le bouquin, vous commencez... moi, par exemple, j'ai l'idée du deuxième, petit spoil. Eh ben, dans le deuxième, je voudrais, si ça se passe bien avec la maison d'édition, ça se passe bien, ça s'est bien passé, mais je veux dire, s'ils ont envie de publier ça et si ça leur parle, et bon, bref, voilà... avoir une lecture beaucoup plus systémique, j'aimerais donner un angle beaucoup plus philo-socio-sciences politiques au second, le premier dans une lecture beaucoup plus individuelle, beaucoup plus psycho, mais en fait, à un moment donné, vous faire des choix, parce que là, si dans le premier bouquin, je vous avais parlé de psycho, de socio, de sciences politiques, de philo, il y en aurait de partout, et au final, on perd ce qu'on veut faire passer au lecteur. Donc vraiment, ne pas s'éparpiller, j'ai envie de dire, ça va être les mêmes conseils que pour ne pas s'éparpiller d'une manière générale, je mets un lien dans la description vers un épisode du podcast justement pour ne pas s'éparpiller. Et encore une fois, le conseil que j'aurais à donner, c'est de toute façon, gardez bien en tête que sur les 200-300 pages de livres que vous allez écrire, vos lecteurs ne vont pas retenir 200-300 pages. Évidemment que non. Enfin, je pense que, comme nous tous, quand on lit des bouquins, on retient pas le détail des 300 pages du bouquin. Donc, il faut donner l'essentiel de ce livre-là. Et puis, si l'expérience vous plaît, vous aurez peut-être d'autres opportunités et d'autres ouvrages pour raconter autre chose. Mais effectivement, si tu t'éparpilles dans l'écriture, au bout d'un moment, tu vas te fatiguer, tu vas te dégoûter de l'expérience probablement, et en fait, tu vas perdre les lecteurs qui vont rien comprendre d'où tu veux aller, quand, comment, pourquoi. Tu vas être là genre, ok, ils vont être là genre, mais what's the point? Qu'est-ce qu'elle veut me dire en fait avec ça? Et probablement, ils vont décrocher finalement de la lecture. La deuxième question, elle est revenue plusieurs fois, donc je prends celle-ci, mais elle en regroupe plusieurs. C'est comment tu as identifié le sujet de ton livre puis construit le cheminement. Alors, pour moi, le sujet... alors, c'est un peu la même idée, finalement, tu vois, avec l'idée que j'ai pour le deuxième bouquin, qui est vraiment au stade embryonnaire, hein, c'est-à-dire que j'ai même pas encore présenté le projet à mon éditrice. C'est un peu un sujet qui s'impose. Finalement, en fait, c'est je tourne un peu autour d'une thématique qui, petit à petit, va se dessiner comme étant la thématique centrale du livre. Tu vois, il y a une forme de... Chez moi, hein, mais c'est très personnel, hein, je suis pas sûre que ce soit comme ça pour tous les auteurs et autrices, mais... moi, ça m'a donné cette sensation pour le premier et pour l'idée du deuxième de quelque chose qui est très, d'abord en arborescence, genre, il y a ça. Et en fait, à force d'explorer ces arborescences et de faire un peu des demi-tours quelque part, tu vois, des allers-retours, avancer dans la problématique X, il me dit, ah non, mais en fait, c'est pas vraiment de ça dont je veux parler. Ah, mais tiens, la problématique Y, Ah, celle-ci, elle est vraiment passionnante. Et puis, tiens, la problématique Z, ah, elle est passionnante, mais pas assez pour écrire un bouquin. Bref, tu vois, un petit peu en arborescence. Et en fait, à force d'explorer ces arborescences, je finis par me rendre compte qu'il y a quand même un peu une thématique centrale. Il y a un fil rouge, en fait, qui se dessine de toutes ces problématiques-là. C'est vrai que pour ce livre-là qui vient de sortir, Transforme ta vie d'entrepreneur, entre guillemets, c'était un peu plus simple. Je l'ai vécu comme une clôture, ce bouquin. Je l'ai vécu comme le bilan de 50 pratiques. Et d'une certaine manière de pratiquer, d'une certaine manière d'appréhender les enjeux bien-être des entrepreneurs. Et je sentais que j'allais passer à autre chose. Et ce bouquin, quelque part, il est venu s'incarner, si je puis dire ça comme ça. Il est venu s'inscrire vraiment dans un moment de fin de cycle, si je pourrais dire ça comme ça. Du coup, c'est vrai qu'avec celui-ci, la thématique, c'était un peu plus simple parce qu'elle s'est imposée d'elle-même. C'était « voilà tout ce que j'ai appris en plusieurs années d'études et de pratiques, et voilà ce que j'ai appris de l'expérience et de la pratique ces dernières années. » Donc c'est vrai que ce livre-là, il s'est posé un peu comme une espèce de fin de cycle, de clôture. Je pense que ça m'a un petit peu facilité le sujet. Sur l'idée que j'ai pour le deuxième bouquin, c'est plutôt une ouverture de cycle, et du coup c'est rigolo parce que ça me fait pas la même sensation. C'est vrai que pour le premier livre, il y avait quelque chose d'évident. Voilà, on va parler de ça, c'est évident, et on va en parler comme ça. Avec l'idée que j'ai du deuxième, je vois que les contours sont beaucoup plus flous, il y a quelque chose qui est un peu plus abscon et qui va nécessiter beaucoup plus de structure. Disons, la structure n'est pas apportée par l'extérieur. Alors qu'avec mon premier livre, la structure était apportée par l'extérieur parce qu'elle était apportée par ma pratique de praticienne. Et donc, finalement, c'est vrai que ce livre que je te propose de lire là, Transforme ta vie d'entrepreneur, y avait une forme de facilité dans la construction du plan, parce qu'en fait, c'est des sujets que j'ai tellement, 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 tellement reçus, des centaines et des centaines d'heures ces dernières années en consultation, que en fait, c'était déjà très structuré dans ma tête. Ensuite, sur le plan en particulier, j'avais construit, donc pour ce livre-là, j'avais construit deux plans. Et puis après, c'est discussion avec l'éditrice, des choses qu'on a modifiées, des choses qu'on a ajustées, qu'on a réduites, qu'on a grossies, etc. Et puis on a co-construit la version finale, mais moi j'avais déjà envoyé deux plans différents, sur la même idée, hein, ils étaient quand même assez proches, mais ça a amené un prisme différent. Gardez bien en tête que votre plan, il va vous conditionner, si je puis dire ça comme ça, comment vous allez voir votre livre et comment vous allez structurer votre pensée et comment vous allez structurer votre matière à penser, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, pour ce bouquin-là, j'ai choisi d'avoir un plan proche d'une vision globalistique, puisque c'était quand même aussi un des messages subliminaux à passer dans ce bouquin, c'est en fait, en tant qu'entrepreneur, vous êtes un individu complexe et vous êtes un individu global. Donc, un des messages du livre, c'est pas le seul, mais un des messages du livre, c'est en fait, tu ne vas pas entreprendre si tu prends pas soin de toi, et prendre soin de toi, c'est pas juste bien manger et bien dormir, même si c'est très important et qu'on en parle dès le début du livre. Mais du coup, mon plan a été pensé de manière à vous faire passer un peu le message subliminal de, en fait, la question du bien-être entrepreneurial, ça sera tout ça. Ça sera ton corps physique, ton corps mental, ton corps émotionnel, le temps et la question du sens. Donc voilà, je l'ai pensé comme ça pour le prochain bouquin dont j'ai une ébauche d'idées. J'aimerais bien regrouper par thème, parce que j'aime bien, c'est un peu ce que j'ai fait avec ce livre-là, hein. Finalement, il y a le thème de la vitalité, il y a le thème du mental, il y a le thème des émotions, etc. J'aime bien ça, parce que je trouve que les lecteurs, ils ont le temps de s'immerger dans la thématique, et ils passent pas d'un truc à l'autre, ce qui était un peu, je trouve, l'inconvénient du deuxième plan que j'avais proposé au début. Ce que j'aimais bien avec ce plan-là, c'est que voilà, il y a une thématique, il y a des parties, donc pour celles et ceux qui ont déjà mon livre entre les mains, vous voyez, vous avez, entre guillemets, le temps de vous immerger dans la thématique des émotions, dans la thématique du temps, etc. Mais, ça a quand même un inconvénient très important, ce modèle-là de plan. Alors, peut-être que j'en trouverai d'autres, des inconvénients, mais celui qui m'a sauté aux yeux en écrivant, le problème d'écrire des grandes parties comme ça, c'est qu'en fait, t'as des sujets qui arrivent en amont. Je vais te prendre un exemple très concret, ça paraît peut-être pas très clair. Mais par exemple, le sujet des relations, dans mon livre, il arrive à la fin. Il arrive dans la cinquième partie sur la question du sens, il y a un chapitre sur créer des relations épanouies, parce que pour être bien dans ta boîte, il faut aussi entretenir des relations harmonieuses avec tes associés, tes clients, tes prestataires, etc. Et puis aussi dans ta vie personnelle. Sauf que, évidemment, c'est donc dans ce chapitre que je prends le temps de parler des jeux psychologiques, de parler de positions, de sauveurs, de persécuteurs, de victimes, etc. Mais le truc, c'est que en amont de ça, il y avait des parties dans lesquelles il fût nécessaire de parler de sauveur, etc. Et donc, du coup, tu te retrouves dans des parties en amont à faire des allusions à des choses où il faudra renvoyer en fin de livre. Et ça, c'est un peu un inconvénient, je trouve, parce que ça demandait quand même une articulation énorme. Et d'ailleurs, dans la partie des corrections et des relectures de mon livre, en fait, on a eu beaucoup de ça. C'était tout le travail de mettre en lien les différents chapitres et de bien mettre les références. D'ailleurs, j'y pense, ça n'a un peu rien à voir, mais tant que j'y pense maintenant. Alors, moi, je me suis pas fait avoir avec ça, mais je me suis fait avoir par le deuxième point. Le premier truc sur lequel je me suis pas fait avoir, mais pense-y, c'est que dès que tu cites des sources, des études, des bouquins, etc., il faut tout de suite que tu les cites dans le bouquin ou dans les notes pied de page. N'oublie pas. Alors moi, je me suis pas fait avoir avec ça parce qu'effectivement, là, j'avais l'expérience universitaire des bibliographies et compagnie, donc j'y ai pensé tout de suite. Mais ça, vraiment, bon conseil à donner, pensez-y. Parce que alors, si vous écrivez tout votre bouquin et qu'au moment des corrections relectures, il faut retrouver toutes les sources que vous aviez citées, vous allez passer un très, très, très mauvais moment. Et le deuxième truc que là, par contre, moi, j'avais pas pensé, c'est vrai que j'ai pas fait systématiquement les rappels au chapitre. Ce que je veux dire, c'est, par exemple, je suis dans, je dis n'importe quoi, le chapitre 17, et en train de dire, comme nous l'avons vu au chapitre concernant les émotions, blablabla. Non, comme nous l'avons vu au chapitre 3, concernant les émotions. Voilà. Et donc ça m'a demandé un travail après de correction, de bien remettre les trucs, et des fois de pas les avoir mis du tout, et que c'est mon éditrice qui me mettait en commentaire, ça, il me semble bien que tu en as parlé plus tôt, donc renvoie au chapitre concerné. Ensuite, dans les questions, j'ai eu, est-ce que tu t'es enfermée dans un chalet pour être dans le flow de l'écriture? Alors, non. Non, mais quelque part, oui, au sens où, en fait, moi, je vis dans une maison, dans la forêt, maison dans laquelle je n'ai pas de voisins, je n'ai pas de bruit, il n'y a pas la route, etc. Donc non, je ne suis pas allée m'enfermer dans un chalet pour être dans le flot de l'écriture, mais en même temps, c'est vrai que j'ai la chance d'écrire dans des conditions immobilières, si je peux dire ça comme ça, qui sont quand même très favorables. Je ne suis pas en ville, j'ai pas le bruit, je ne suis pas dérangée, etc. Si j'avais été en centre-ville de Lyon, Paris, est-ce que je serais partie écrire à la montagne? Peut-être, probablement. Vraiment, probablement, je pense. Je pense que vraiment, ça aide quand même de pouvoir t'immerger. Alors moi, j'ai pas écrit tout d'un coup. Je sais qu'il y a des auteurs, autrices qui font ça, c'est-à-dire qu'ils partent une semaine, trois semaines, un mois, et ils se mettent en écriture constante. Moi, j'écris pas comme ça. En tout cas, sur ce premier livre, tout du moins, parce que j'ai pas l'expérience d'en avoir écrit 10, mais sur ce premier livre, j'ai pas écrit comme ça. Moi, j'ai écrit par session de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, des fois. Mais voilà, par demi-journée. Une demi-journée par semaine. Alors évidemment, dans mes semaines, hein, il y avait une demi-journée d'écriture, il y avait une demi-journée de recherche, il y avait... Bon, voilà. Mais moi, j'ai pas fait un tunnel pendant des semaines et des semaines. Donc du coup, c'est vrai qu'avec cette manière-là d'écrire, partir dans un chalet ou quoi que ce soit, ça serait sûrement assez complexe. Après, au demeurant, peut-être que j'ai écrit comme ça parce que justement, j'étais à domicile. Et donc, c'est vrai que si j'avais dû fuir la ville pour... aller me mettre dans une maison de campagne ou quoi que ce soit, bah, probablement j'aurais écrit d'une manière différente. J'aurais sûrement écrit des semaines d'affilée, hein, si je peux dire ça comme ça. Je pense effectivement que si j'avais été en centre-ville, je pense que j'aurais soit rapatrié la maison familiale, soit loué quelque chose, bon voilà. Bon, du coup, effectivement, je n'ai pas eu à le faire. Ça m'a permis d'écrire comme ça. Est-ce que j'écrirais comme ça si j'étais en ville? Je sais pas, il peut pas te dire. Mais en tout cas, moi, j'ai distillé. Voilà, j'ai écrit des... Enfin, moi, je trouve que vraiment, c'est quand même un exercice intellectuel super intense. Moi, je suis vraiment admirative des auteurs et des autrices qui se mettent dans leur bouquin et qui, pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, ne font que ça, matin, midi et soir. Mais après, moi, c'est pas mon fonctionnement d'une manière générale. Hein. C'est-à-dire que même dans mon entreprise, moi, je n'ai pas des plages de plusieurs jours, de plusieurs semaines où je bosse sur un même dossier. J'ai besoin de, tu vois, que ça change, etc., que ça bouge, parce que sinon, je deviens vite chèvre. Donc, bah, au final, dans mon écriture, je me suis un peu retrouvée avec la même idée, c'est que j'avais des plages d'écriture, finalement, assez courtes, hein, finalement, de quelques heures. Ensuite, il y avait une question qui est-ce que écrire et gérer tout le reste, c'est jouable? Alors, du coup, j'en ai parlé un petit peu dans la question d'avant. Pour moi, ça l'a été. Qu'est-ce qui a fait que ça a été jouable? À mon avis, c'est... Alors, déjà, parce qu'effectivement, j'écrivais... de telle manière que c'était, comment je pourrais dire, compatible avec mon emploi du temps. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai pas ressenti le besoin, plutôt, de m'absenter des semaines et des semaines pour écrire. Et j'entends qu'il y en a plein qui semblent en avoir besoin, mais effectivement, moi, ça, c'était pas mon besoin. Moi, j'avais besoin que ça s'inscrive dans mon quotidien, parce que je pense que mon quotidien me nourrit aussi quelque part, parce que ça structure ma matière à penser. Donc, c'est vrai que ça s'est rendu jouable. Après, bah, c'est sûr que ça rajoute un gros projet, évidemment, dans l'emploi du temps, d'autant que moi, bah, effectivement, j'avais 5 mois pour l'écrire, donc clairement, c'est rush. C'était vraiment... voilà, il n'y avait pas trop la place, j'ai envie de dire, à tergiverser 4 ans, quoi. Hein, donc, bon, fallait y aller. Après, ça demande pas mal d'organisation, c'est clair. Ça demande surtout quand tu t'y mets, ça laisse pas vraiment le temps à papillonner pendant une plombe. Ça a demandé aussi de la délégation, hein, quand même. Hein, je fais un petit big up ici à Axel. J'allais dire si elle m'écoute, mais elle monte l'épisode, donc en fait forcément elle m'écoute, qui a géré beaucoup de choses aussi dans la boîte, parce que bah effectivement au bout d'un moment tout gérer en même temps c'est quand même complexe, plus ta vie personnelle à côté. Alors moi je n'ai pas d'enfant, donc je peux pas témoigner de ce que c'est d'écrire avec des enfants, mais bon bah évidemment j'avais aussi ma vie personnelle, comme chacun peut la vivre et l'imaginer. Et notamment j'en ai parlé dans mon épisode sur les 3 leçons 2023, mais il m'est arrivé quelque chose de très complexe et difficile dans ma vie perso, justement, en octobre 2023. Donc, ça a complexifié. Alors, heureusement, j'avais fini le gros de l'écriture. Mais par contre, cet événement de ma vie personnelle est arrivé au moment où il a fallu faire les corrections, les relectures, terminer les derniers ajustements, etc. Donc, c'était vraiment pas évident parce que j'avais pas le cerveau bien disponible. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est la vie, quoi. Donc, bon, bah, de toute façon, le projet, il est lancé. Tout le monde attend, les éditeurs attendent, les imprimeurs pour les impressions attendent. Bon, bah, il y a ESTA, quoi, je veux dire, bon. Donc, est-ce que écrire et gérer tout le reste, c'est jouable? Oui. Est-ce que c'est simple? Non. Et est-ce que ça demande une bonne organisation? Oui. Et puis, je pense que ça demande pas mal d'efficacité. Sauf si vous avez des délais beaucoup plus longs que les miens, ce que je ne peux que vous souhaiter. Autre question qu'on m'a posée, qu'as-tu préféré dans l'expérience et qu'est-ce que tu as détesté ? Alors, j'ai adoré tout le travail intellectuel, mais ça, c'est ma cam. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré chercher, lire, réfléchir, écrire, synthétiser, reformuler, faire lire le chapitre, avoir des retours, le réécrire. Voilà, et moi, j'aime vraiment ce travail de recherche, de m'immerger dans un sujet, de me construire une pensée, de me dire « Ah, putain, ok, je pense ça », de continuer mes recherches et me dire « Ah, mais non, en fait, je ne le pense plus du tout, j'avais pas vu qu'on pouvait aussi le voir sous cet angle et j'ai trouvé un auteur ou un enseignant qui a le point de vue opposé au premier ». Et donc, voilà, moi, j'ai vraiment adoré cette partie de recherche, de construire ma pensée, de l'écrire, de le synthétiser, voilà. Après, ce que j'ai pas aimé, clairement, moi, c'est les corrections et les relectures. Alors ça, c'est vraiment les 3 mois que j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça vraiment difficile, parce que quand tu t'es immergé dans ton bouquin pendant 5 mois, et que t'as passé 5 mois à lire à ce propos, écouter des trucs à ce propos, synthétiser, écrire, relire, machin, corriger, ta mère, l'éditrice, machin, bon, tu rends tout. Et de nouveau, on repart, on te renvoie le bouquin, on fait les corrections, on fait les relectures, tu le re-renvoies, on te le re-re-renvoie. Et là, il y avait des centaines de commentaires. Et merci à eux. Enfin, je veux dire, les correcteurs et les relecteurs de la maison d'édition, ils font un travail de fou eux aussi, hein, parce qu'ils ont quelques jours pour lire tout le bouquin, pour s'imprégner du truc, pour faire les liens, pour corriger, etc. Mais moi, je trouvais ça difficile, parce qu'en fait, quand tu l'as rendu, même ta partie, tu vois, tu l'as rendu, tu peux plus te la voir, quoi. Pendant quelques jours, tu peux plus te la voir. Mais après, c'est ton bouquin que tu peux plus te voir de toute façon, mais et tu vois, il faut te remettre dedans, et c'est des mois après, genre, t'as rendu ta partie 1 il y a 4 mois, et 4 mois après, il faut se remettre dans la partie. Donc en fait, il y a même des trucs où, tu vois, par exemple, les correcteurs me mettaient genre un point d'interrogation en mode « What's the point ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et toi, tu relis ta phrase et t'es là, j'en ai aucune idée, en fait. T'as oublié parce que ton truc, tu l'as rendu il y a 3-4 mois, et toi-même, tu relis ta partie et tu te dis « Mais qu'est-ce que je voulais dire, en fait, avec ça ? Je comprends pas. Je me comprends pas moi-même, en fait. » Donc j'ai trouvé que ouais, toute la partie correction, relecture, c'était difficile. Il faut refaire tous les liens entre le bouquin, entre les différents chapitres. C'est pas tant, si tu veux, de corriger des fautes ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que moi, du coup, j'en avais pas beaucoup à corriger parce que j'en fais peu, que ma mère avait repassé par-dessus, l'éditrice était repassée. Donc, c'est pas tant ça, correction et relecture. Mais voilà, des fois, c'est des morceaux, c'est un paragraphe dont toi, t'es super fier. Et l'éditeur, il dit, bah, il sert à rien ton paragraphe. En fait, il apporte rien. Et t'as, bah, ouais, t'as raison. En fait, je l'ai écrit pour moi, je l'ai pas écrit pour eux. Bon, bah, voilà, des fois, de reformuler des choses. Bon. Donc, ça, vraiment, moi, c'est la partie que j'ai pas aimée. Je trouvais que c'était. C'était long, c'était laborieux, c'est dur de te remettre dedans, surtout quand tu fais tourner une boîte à temps plein à côté, enfin, ou que t'as un métier, peu importe, enfin bref, tes enfants, que sais-je, mais je veux dire, t'as une vie à côté, je veux dire, j'imagine que pour la majorité d'entre vous, pour pas dire la totalité d'entre vous, vous n'êtes pas des auteurs à temps complet, sinon je pense que vous n'écoutez pas cet épisode, probablement. Évidemment, nous avons aussi notre vie à côté, notre entreprise, notre métier, nos enfants, que sais-je, ce qui occupe le maximum de votre temps. Et donc, quand t'as rendu ton truc et que dans ta tête, tu dis « Ok, ça, c'est fait », et que d'un coup, on te renvoie 300 pages Word avec 150 commentaires, et t'es genre « Oh là 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 là, il faut te remettre dedans ». Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile, les corrections et les relectures. Ensuite, j'ai encore 3 questions à traiter. La première, c'est « Est-ce que tu t'es faite accompagner ?» Non, même si la maison d'édition, et j'en profite d'ailleurs de remercier l'équipe éditoriale s'il y en a qui passent par là, eux, en fait, ils t'accompagnent, puisque de toute façon, ils vont te dire ce qui va marcher, pas marcher, comment réécrire tes chapitres, comment les structurer, ils vont te donner plein de conseils. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, mon expérience, c'est que j'ai pu envoyer des mails à chaque fois que j'avais besoin pour poser des questions, etc. Et j'ai toujours eu des réponses très rapides, et voilà. Mais par contre, j'ai pas été accompagnée par prestataire externe, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que tu t'es basée sur des structures de livres existantes? Oui et non. Plutôt non que oui, d'ailleurs. Oui, dans la mesure où, en fait, je lis beaucoup, donc de toute façon, j'ai plus ou moins inconsciemment, de toute façon, j'ai des structures de bouquins en tête, si je peux dire ça comme ça. Mais non, au sens où je voulais, voilà, j'ai pondu mon plan. Mais en fait, comme je te disais, si tu veux, plus tôt dans l'épisode, c'est qu'il y a quand même cette idée où, en fait, ce bouquin, il est venu tellement naturellement, si je peux dire ça comme ça. Quand je dis naturellement, je dis pas facilement. Mais il y avait une telle évidence dans le plan, dans la structure, que en fait ça m'a pas demandé d'aller faire énormément de comparatifs, etc. Et puis voilà, il fallait que ça soit la sauce Bien dans ta boîte. Enfin, c'était le livre de Bien dans ta boîte, c'était le premier en plus, c'était vraiment le livre qui clôturait entre guillemets 5 ans. Quand je dis clôturer, vous inquiétez pas, je suis toujours là en consultation, hein, mais une certaine vision des choses, une certaine manière d'appréhender les thématiques, etc. Donc j'ai pas eu vraiment le besoin d'aller faire beaucoup de comparaisons. Et la dernière question, j'y passe rapidement parce que finalement j'ai déjà répondu, c'est à quel moment tu as envoyé le livre à l'éditeur. Donc comme je vous disais, alors j'imagine que la question sous-jacente c'était est-ce que tu l'as écrit d'abord, envoyé à l'éditeur après. Donc bon, vous avez compris, ça s'est pas passé comme ça. Voilà, donc je crois que cette fois j'ai répondu à toutes les questions et que cet épisode est déjà suffisamment long comme ça. Donc j'espère que ça t'a plu. J'espère que t'as appris plein de choses. J'espère avoir pu donner le maximum de coulisses, de retours, etc. Personnellement, globalement, ça reste une expérience que j'ai adorée et que, bon, bah, tu l'as entendu dans l'épisode, j'ai l'idée d'un deuxième, donc c'est que j'ai envie d'y retourner. Moi, j'ai vraiment adoré cette expérience. Si vous avez envie de le faire, bah, faites-le, j'ai envie de dire faites. Arrêtez de le rêver, réveillez-vous et faites-le. Maintenant, bien sûr, ça prend du temps. Bien sûr, je pense que l'écriture reste pour moi quand même quelque chose qui relève, entre guillemets, de ma zone de génie, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas eu de syndrome de la page blanche. J'ai pas galéré à tout prix. Il y a des chapitres qui ont été vraiment difficiles à écrire. Il y a des chapitres qui étaient vraiment durs à écrire, déjà parce qu'ils me plaisaient moins, parce que le sujet me plaisait moins, parce qu'il fallait que j'en parle, parce que ça me paraissait nécessaire d'en parler sur des questions de bien-être au travail des entrepreneurs. Mais évidemment que là-dedans, il y a des sujets qui me tentaient moins. Il y a des sujets que je connaissais moins et qui me demandaient beaucoup plus de recherche. Donc évidemment, tout n'est pas facile. Mais voilà, moi, j'en ai adoré l'expérience. Je pense que si vous avez envie de le faire, et que vous pouvez, bien sûr, plein de raisons X ou Y, faites-le. Ne le faites surtout pas pour gagner de l'argent. Parce que vous n'allez pas en gagner beaucoup. Donc, faut pas le faire pour ça. Il faut le faire pour l'amour de l'écriture. Il faut le faire pour l'amour de l'apprentissage. Il faut le faire pour l'amour de la transmission. Il faut le faire pour, pourquoi pas, pour la notoriété, pour la crédibilité, parce que c'est votre rêve depuis très longtemps, parce que j'en sais rien. Mais ne le faites pas pour l'argent. Hein. Vraiment, là, c'est pas la... C'est pas le projet rentable hein, de l'entreprise, on va pas se mentir. Mais voilà, moi j'ai vraiment adoré ce truc-là et au fur et à mesure des mois, ça devient de plus en plus concret. Et en plus, je trouve ça formidable parce que moi je trouve que quand même un bouquin c'est fou quoi. Je me dis, putain, pour 15 à 30 balles, si je prends une fourchette large, pour 20-25 balles, t'as quand même accès à des centaines et des centaines et des centaines d'heures que l'auteur a passé à réfléchir, à s'instruire, à synthétiser, à pratiquer, dans mon cas, je suis pas la seule bien entendu, c'est dingue, quoi. Et moi, je trouvais ça formidable. Je me disais, mais en fait, pour les gens qui s'intéressent à Bien dans ta boîte et qui n'ont pas les moyens de venir dans mes formations, dans mes coachings, ce que je comprends très bien, bah en fait, t'as déjà accès à Bien dans ta boîte pour 21 balles, quoi. Je trouve ça fou. Et vraiment, dans ce bouquin, je n'ai pas écrit un bouquin, ça peut être aussi un des derniers conseils, j'ai pas écrit un bouquin en me disant, je vais l'édulcorer, je vais pas tout dire, comme ça, les gens, ils auront envie de venir en coaching, machin. Non, c'est pas une stratégie de vente. Moi, j'ai pas écrit un bouquin, et il y en a plein qui le font, et j'entends, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Il y a plein de gens plein d'entrepreneurs qui écrivent des bouquins pour que ces bouquins soient des produits d'appel pour leurs accompagnements. J'entends, et c'est hyper futé. Moi, je l'ai pas pensé comme ça à mon bouquin. Évidemment, ça reste un bénéfice secondaire, mais je l'ai pas pensé comme ça. Genre, j'ai pas édulcoré des choses pour que les gens soient en frustration et que du coup ils viennent en coaching. Non, j'ai mis tout ce que je pouvais y mettre dans la limite de caractère qui m'était imposée, puisque les éditeurs, si vous êtes en édition et pas en auto-édition, en édition vous aurez une limite de signes. Évidemment, je pouvais pas dire tout ce que je voulais, comme je voulais, etc. Et puis, il faut que ça reste digeste quand même pour les lecteurs. Donc, c'est pas la peine non plus d'écrire une thèse de 800 pages. Ou alors, effectivement, faut partir faire une thèse et c'est un autre sujet. Mais voilà, donc, moi, je trouve ça formidable, quoi. Et je pense que ça, c'est des bonnes raisons pour écrire un bouquin. C'est parce que vous en rêvez, parce que vous en avez envie, parce que vous avez envie de transmettre, parce que vous avez envie de rendre accessible de la connaissance, parce que vous avez envie d'apporter quelque chose. Faut pas le faire pour le pognon, quoi. Je veux dire, ça, de toute façon, dès que vous allez discuter avec la maison d'édition, vous allez vite comprendre pourquoi il faut pas le faire pour le pognon, de toute façon. J'ai pas, moi, de retour de l'auto-édition, puisque du coup, je n'ai pas auto-édité. Peut-être ça vaut le coup d'avoir le retour de collègues qui sont passés en auto-édition, qui nécessairement doivent, j'imagine, toucher beaucoup plus d'argent, mais bon, c'est une autre manière de s'y mettre. Moi, j'ai préféré passer par la maison d'édition, et encore une fois, si l'équipe éditoriale s'égare, à la fin de ce podcast, je les remercie, parce que vraiment, ils ont fait un très très beau travail d'accompagnement. Moi, c'était mon premier livre, hein, donc ils ont fait un très très beau travail d'accompagnement. J'avais tout à apprendre, et on m'a pas laissé sans réponse, on m'a pas laissé en galère, moi, j'ai une très bonne expérience avec la maison d'édition, avec la maison Vibert. Et voilà. Et donc, le dernier truc que j'avais à dire, effectivement, c'est, quoi qu'il en soit, j'espère que ce retour d'expérience t'aura plu et qu'il t'aura aidé. Ça reste mon retour d'expérience. J'ai bien conscience des privilèges que sont les miens. J'ai pas envie de vous faire un épisode en mode, ça va, c'est facile. Si tu veux écrire un bouquin, mets-toi à écrire un bouquin et fais-le et c'est tout. Non, j'ai conscience de mes privilèges. C'est pas difficile pour moi d'écrire, je n'ai pas de dyslexie, de dysorthographie ou quoi que ce soit, je ne fais pas beaucoup de fautes d'orthographe, donc malgré tout ça fait gagner du temps, malgré tout ça vient pas peut-être faire un sentiment d'illégitimité. J'ai ma maman qui a tout relu, alors ma pauvre maman, elle dans la famille elle s'est tout fait, elle s'est fait les thèses, les bouquins, bon voilà, j'ai ce privilège-là. Je n'ai pas d'enfant. Alors, je vais pas dire que c'est un privilège. C'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire forcément, nécessairement, c'est quand même, ça, évidemment, prend du temps, de l'énergie, de la fatigue, etc. Moi, je n'ai pas ce facteur-là. J'en ai d'autres, qui sont pas nécessaires à nommer, de cette fin d'année 2023 qui aura été vraiment très difficile, mais voilà, ça, juste, c'est la vie de n'importe quel humain de cette terre. J'ai le privilège d'être dans une maison, qui est très agréable. J'ai le privilège d'être dans une maison surtout qui est calme, où il n'y a pas la route, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de bruit. Très clairement, j'ai parfaitement conscience que j'ai beaucoup de privilèges qui m'ont permis de faire ce bouquin dans ces conditions-là. Et donc, loin de moi l'idée de dire c'est facile, il n'y a qu'à Faucon. Ah, voilà. Je pense que pour moi, l'écriture, c'est quand même quelque chose d'assez fluide. C'était pas facile tout le temps, mais clairement, je suis bien obligée de constater que c'est pas quelque chose qui m'a mis dans une très grande difficulté. Les corrections, les relectures, ça, ça m'a mis en difficulté pour le coup. Et puis voilà, bon après, ben moi, mon travail, c'est, je suis pas une marketeuse, donc par exemple, je vais me sentir bien plus en difficulté dans la partie promotion et dans la partie communication que dans la partie d'écriture, parce que je suis bien plus, entre guillemets, intellectuelle que marketeuse. Donc, il faut jouer évidemment avec les forces de chacun. Et de la même manière, sur la partie promotion, tout ce qui est interview, rapport aux journalistes, etc., c'est quelque chose qui me met pas dans un stress énorme, j'ai l'habitude d'en donner, donc je suis plutôt à l'aise à l'oral. Donc voilà, je pense que c'est quand même intéressant, si tu veux te lancer dans ce projet d'écriture de livre, d'avoir bien en tête, pourquoi je dis ça, pour que tu aies en tête que il y a plein de choses. Il n'y a pas juste l'écriture. Il y aura la recherche, il y aura l'écriture, il y aura la synthèse, il y aura les corrections, il y aura les relectures, il y aura la communication, il y aura la promotion, il y aura la couverture aussi. avec les équipes commerciales si tu es édité. Enfin voilà, il y a plein de compétences là-dedans. Et il s'agit pas juste d'être à l'aise avec l'écriture. Alors c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, parce qu'avant d'arriver à écrire 200, 300 pages, faut-il encore être à l'aise avec l'écriture ou tout du moins s'y entraîner. Mais il y aura pas que ça. Ça sera pas les seules compétences qui seront nécessaires pour mener ce projet de bouquin jusqu'au bout. Bon, voilà, je pense que j'ai déjà donné pas mal d'infos, donc je vois que je suis à quasiment 50 minutes d'épisode. Je crois qu'il est grand temps que je me taise. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à quelqu'un autour de toi qui peut-être est intéressé d'écrire un livre de non-fiction et que ça pourrait aider. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide à faire connaître le podcast. Et surtout, n'hésite pas à aller commander ton bouquin, soit dans les liens qui sont dans la description, soit dans ta librairie, et de m'envoyer, si tu as l'envie, une petite photo sur Instagram de toi avec ce bouquin, ça me rend un peu plus concret de vous voir avec le livre. Je t'en souhaite une très bonne lecture, j'espère qu'il va te plaire, j'espère qu'il va t'aider surtout à cheminer et qu'il pourra accompagner un petit bout de ta route d'entrepreneur. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.